Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Il ne s'agit pas là seulement du titre d'une comédie française à succès. La réaction spontanée des contemporains de Jésus aux morts accidentelles dont vient de nous parler l'Évangile pourrait tout à fait s'accorder à cette question. Et nous-mêmes, n'avons-nous pas déjà regardé le ciel en y cherchant la cause de nos épreuves? Un malheur frappe nos proches ou des inconnus, comme les Ukrainiens pris au piège de la guerre. Un accident nous arrive et les mêmes questions surgissent sur le champ. Qu'ai-je donc fait pour mériter cela? De quoi suis-je coupable si Dieu me punit ainsi? Pourquoi Dieu m'en veut-il? Mais Dieu prendrait-il plaisir à se venger de ses créatures? Nous sommes tellement habitués à projeter sur Dieu nos propres sentiments, et pas toujours les plus nobles, comme ici nos sentiments de vengeance ou de revanche, que nous ne nous rendons pas compte à quel point de telles réactions, aussi spontanées soient-elles, si nous les prenions au pied de la lettre, constitueraient une grave offense à son amour, pour ne pas dire un blasphème. C'est précisément cela que Jésus voudrait expliquer à ses auditeurs. Des Juifs, révoltés contre l'occupant romain, ont été tués dans un bain de sang. 18 personnes ont été ensevelies sous les décombres d'une tour qui s'est effondrée. N'est-ce pas qu'elles l'avaient mérité? Qu'elles étaient coupables aux yeux de Dieu puisqu'il l'a permis? Un jour, des scribes et des pharisiens auront la même réaction devant l'aveugle né qu'on amènera à Jésus. S'il est né aveugle, qui est coupable? Lui ou ses parents? Étant entendu que celui qui condamne et qui punit, évidemment, c'est toujours Dieu. Mais Dieu ne réagit pas comme les hommes réagissent habituellement devant une offense qu'il aurait faite, ou devant le peu de résultats, ou même l'absence totale de résultats, que sa grâce voudrait produire en eux, devant l'échec apparent de son amour. Dieu ne se décourage pas. Il ne se lasse pas. Même si l'humanité venait à désespérer de Dieu, Dieu ne désespérera pas d'elle. Car Dieu est patient, infiniment patient, humblement patient, presque déraisonnablement patient. Et c'est peut-être là la preuve la plus éclatante de son amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Voilà 3 années déjà que quelqu'un a planté un figuier dans sa vigne, et 3 années consécutives qu'il est venu pour en cueillir les fruits, mais toujours en vain. Alors, très normalement, il perd patience. À quoi bon tolérer un figuier stérile? Arrachons-le donc et donnons une chance à un plan plus vigoureux et plus prometteur. Réaction légitime et raisonnable, mais réaction humaine. Vous, par exemple, qui êtes parents, transposez donc cela avec vos enfants. Mais Dieu ne réagit pas ainsi. C'est lui qui a planté ce figuier. Il en connaît les limites, mais aussi les possibilités. Surtout, il semble l'avoir pris en affection. Il aime ce figuier, même stérile, comme il aime tous les hommes, même pécheurs. « Je ne veux pas la mort du pécheur », avait-il déjà dit dans l'Ancien Testament, « mais qu'il se convertisse et qu'il vive et soit sauvé ». Allez donc voir du côté du chapitre 18 d'Ézéchiel. Alors, Dieu va exploiter au mieux les multiples ruses de sa grâce, à l'image du cultivateur de la parabole qui, pendant une année encore, déploiera toutes les ressources de son savoir-faire d'arboriculteur. Bêcher, remuer la terre autour de l'arbre, apporter du fumier et surtout prendre patience. Lui laisser le temps de se développer et de former ses premiers fruits. Un temps qui est un temps de grâce, le temps de la patience de Dieu et de son amour inlassable, durable, tenace, infatigable. La parabole s'arrête là. Nous ne savons pas comment l'histoire du figuier s'est terminée. Et si, au bout de cette année de répit, il a fini par donner des fruits? Nous savons seulement que Dieu en profitera pour déployer tous les moyens et toutes les ruses de son amour et de sa grâce. Mais l'issue, Dieu a voulu qu'elle demeure ouverte. Car c'est l'endroit où il attend quelque chose de notre part. Il attend patiemment, amoureusement, notre libre consentement. Non pas en brandissant des menaces, mais en distillant dans notre cœur une bonté infinie. Et saint Paul d'exhorter chacun de nous à reconnaître que cette bonté de Dieu nous pousse à la conversion. Nos frères et sœurs catéchumènes sont les témoins vivants de la bonté de Dieu. Qu'elle soit pour nous tous un encouragement dans notre montée vers Pâques et le motif de notre joie. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Les yeux fixés sur Jésus-Christ, frères et sœurs, contemplons ce que le bon Dieu fait pour nous. Amen.